à l'intérieur de ce panorama, pour les militants antiracistes comme nous, il y a une image un petit peu mythique, mais un petit peu floue quelquefois, c'est la conférence de Durban. Et nous avons la chance d'avoir ce soir avec nous M. Doudou Dien, que Chloé a cité à propos de certaines de ses actions, mais qui a été un des acteurs importants de cette conférence. Donc, nous lui avons demandé de nous expliquer un peu en quoi elle consistait, en quoi elle était complexe, parce que nous avons vaguement l'impression qu'il y a eu des difficultés, et en quoi elle est devenue un cycle en se prolongeant dans la décennie qui a suivi.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à participer à cette rencontre qui est absolument opportune. Vous avez bien choisi le moment, il fallait le faire. Maintenant, qu'il va falloir reparler du racisme. Alors, vous m'avez demandé de vous parler de la conférence de Durban. Alors, la conférence de Durban, c'est ça. C'est une déclaration et un programme d'action. Et la conférence de Durban, en 2001, septembre 2001, pour vous donner la mesure de la gravité du racisme et de sa résilience, c'est la troisième conférence internationale sur le racisme. Il n'y a pas un thème aux Nations Unies qui a fait l'objet d'autant de conférences internationales. D'habitude, il y en a une sur l'environnement, l'autre, etc. Mais le racisme a fait l'objet, donc, de trois grandes conférences internationales. Et Durban est la dernière. Mais avant de revenir sur ce que Durban représente, je voudrais quand même rappeler l'actualité du racisme qui montre que Durban était là, mais que le racisme, c'est ce que Elie Wiesel disait. Il disait que le ventre est encore fécond d'où est sortie la bête immonde. Il parlait du nazisme, c'est-à-dire ce qui avait produit l'Holocauste, c'est-à-dire l'élimination d'une communauté entière, physiquement éliminée, c'est-à-dire liquidée physiquement, par le pays considéré comme le plus civilisé, l'Allemagne. Et donc, la résilience du racisme, on la vit actuellement. C'est pour ça qu'il est important d'actualiser notre rencontre. On la vit parce que vous avez lu et vu que dans la tragédie ukrainienne qui mobilise l'ensemble du monde et dans l'extraordinaire mobilisation de la communauté internationale pour aider les Ukrainiens, quelque chose est apparu derrière donc les actes généreux et forts d'entraide, de soutien. Quand les gens ont commencé à sortir de l'Ukraine pour aller vers la Pologne, surtout la Pologne, à la frontière polonaise, ils ont été divisés en deux groupes, les Européens blancs et les Africains, les Indiens et les Arabes ont été mis de côté. Et donc, beaucoup se sont retrouvés dans la forêt, ils n'avaient plus de moyens de rentrer en Pologne. Donc, un acte absolument basé sur la race, dans une tragédie sur laquelle les valeurs universelles étaient appelées à contribuer. Donc, ça vous montre la complexité du racisme, que les mêmes pays qui ont voulu, par solidarité humaine, humanité, soutenir les Ukrainiens, ont fait montre de racisme. On séparait l'humanité par la race. Et ça continue au moment où nous parlons. Donc, gardez ça à l'esprit. Alors, le deuxième point que je voulais aussi mentionner, c'est que ce que nous avons voulu faire à Durban, c'est donc la troisième conférence internationale. C'est de ramener la communauté internationale sur la question. Mais la conférence de Durban, la troisième conférence mondiale, elle a été organisée par l'ONU, l'UNESCO et les grandes organisations internationales et la société civile mondiale, d'abord sur la base d'études concrètes sur le racisme et ses différentes formes dans la plupart des pays du monde. Ensuite, dans chaque région du monde, Afrique, Amérique du Sud, Caraïbes, Europe, nous avons organisé des réunions pour que dans ces régions, les gouvernements, les citoyens, la société civile, les juristes se réunissent pour dire, mais le racisme, qu'est-ce que c'est chez nous? Qu'est-ce que nous avons fait, etc. Donc, des conférences régionales qui ont produit des images et des programmes, voilà, en Europe, voilà l'état du racisme en Afrique, etc. Et ensuite, donc, nous avons organisé cette conférence à Durban. Alors, cette conférence, un premier incident vous montre la complexité du racisme aussi. Dans tout le processus qui a précédé, tous les pays du monde ont participé. Et c'était en septembre 2001, je vous rappelle, notez bien la date. Et la veille de la conférence de Durban, c'était aux États-Unis, c'était George Bush qui était au président. La veille, donc, à ce moment-là, il y a eu des débats dans l'administration américaine, parce qu'il y a eu une certaine campagne qui disait que la Durban pouvait être une conférence antisémite, etc. Et l'administration américaine a été divisée. Mais à l'ouverture à Durban, j'étais là, les États-Unis étaient présents. Mais le lendemain de l'ouverture, ils se sont retirés de la conférence. Pourquoi ? Parce que Colin Powell, qui était le secrétaire d'État américain, s'occupant donc des affaires étrangères, qui était lui-même afro-descendant, s'était battu en disant à George Bush, on ne peut pas arrêter cette conférence, c'est notre histoire, c'est l'esclavage, c'est le racisme, nous l'avons tous les jours, il faut qu'on y soit. Et George Bush a accepté. Mais quand la conférence a commencé, les conservateurs américains, et notamment Rumsfeld, le ministre de la Défense, ont réagi très fort. Et George Bush a rappelé la délégation américaine. Donc, notez ça, c'est un point très important pour un pays dont toute l'histoire est marquée par le racisme. Malgré ça, et c'est un point aussi à noter, bon, Israël aussi s'est retiré en suivant les États-Unis. Mais les organisations juives des droits de l'homme ont participé à la réunion parce qu'il y avait un forum pour la société civile. Et donc, la conférence s'est tenue à Durban d'une manière extrêmement approfondie, avec les rapports des régions, les rapports des experts, les recommandations, les analyses juridiques, scientifiques, sociologiques, de fond. Et le résultat, c'est ça. Et je vous recommande vraiment de le lire, parce qu'il y a eu ensuite, dans le silence et l'invisibilité sur le racisme, on l'a occulté. On n'en a pas beaucoup parlé. Mais ce document a été adopté à l'unanimité, je le souligne, de tous les pays du monde. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement les pays du Sud, etc., les pays islamiques ou les pays d'Amérique du Sud ou d'Afrique. À l'unanimité, de la Belgique à la Norvège, au Sénégal, mon pays, à la Chine, sauf ces deux pays qui s'étaient retirés. Donc, il y a une vision mondiale. Alors, il y a deux parties dans ce document. La déclaration, c'est un document de principe parce que le racisme, ce sont des actions, c'est le mal, c'est la violence. Mais à la fin, le racisme est un iceberg. Ce que les actes juridiques, les condamnations touchent, la loi et la justice, c'est le sommet de l'iceberg, c'est-à-dire les discriminations sociales, économiques, logement, emploi, police, tout ça, les formes. Mais nous savons maintenant, et c'est pour ça qu'on a fait Durban, qu'on ne peut pas éradiquer ce monstre sans aller à la racine, c'est-à-dire à la racine de l'iceberg, dans les sources profondes du racisme. Et dans ces sources profondes, il y a les valeurs humaines. Parce que tout le combat contre le racisme doit être, M. Amselem va en parler, être basé sur l'universalité du combat contre le racisme. C'est-à-dire les valeurs humaines, valeurs. Notion qui est occultée par le contexte actuel. Et donc la déclaration, qui est la première partie du document, qui a fait l'objet de débats extrêmement profonds dans la rédaction, les mots, les articulations, c'est un texte sur les valeurs humaines pour lesquelles le racisme doit être combattu. Et c'est très pédagogique, lisez-le. Les valeurs humaines. Et ensuite, le programme d'action qui a été donc débattu dans les régions, dans les pays et à Durban pendant ces quinzaines de jours de conférence. Et ce que les programmes d'action, c'est-à-dire pour agir, pas seulement énoncer les principes et les valeurs, mais agir, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, je vais vous lire simplement l'intitulé des principaux chapitres de ce document sur le programme d'action. Ce programme d'action porte d'abord sur les sources, les causes, les formes et manifestations contemporaines du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée. C'est le premier point, très important. Le deuxième chapitre porte sur les mesures de prévention, parce que le racisme, il faut le combattre de manière préventive, pas seulement quand le racisme s'est déjà exprimé. Les mesures de prévention, d'éducation fondamentale et de protection visant à éliminer, je souligne, au plan social, au plan national, régional, international, le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance. Très important. Et la troisième partie de ce document de programme d'action, c'est les recours utiles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire, quels recours, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'énoncer des principes, mais où les énoncer, comment agir. Et là, la programme d'action indique les recours utiles, les voies de droit. Nous sommes dans une faculté de droit ici, c'était ma faculté aussi ici. Les réparations et autres mesures à prévoir aux échelons national, régional et international. L'aide judiciaire, la législation, programmes nationaux, les recours, réparations et indemnisations. Et la dernière partie du programme d'action, ce sont les stratégies visant à instaurer l'égalité intégrale et effective, notamment la coopération internationale et le renforcement des mécanismes mis en place par l'ONU et autres mécanismes internationaux pour lutter contre le racisme. Et donc, voilà ce que contient ce document. Pour moi, qui travaille dans cette question depuis très longtemps et d'autres, c'est le meilleur document qui ait jamais été produit contre le racisme. Mais ce qui s'est passé, et notez bien la date, la conférence Durban a eu lieu en septembre 2001. Nous étions à Durban le 8 septembre. J'ai quitté Durban, moi, le 8 septembre. On avait adopté. Et le 11 septembre, l'attaque terroriste contre New York. Des tours qui ont été détruites, des attaques terroristes. À ce moment-là, tout a changé. C'est-à-dire que la priorité n'était plus la lutte contre le racisme, mais la lutte contre, je cite, entre le terrorisme. Et ça a été, donc ce qui a été acquis à Durban a été oublié de plusieurs manières. Un, les pays qui participaient à Durban et qui l'ont adopté avaient accepté, reconnu la nécessité de transcrire Durban, tout ce qui est là, dans leur législation nationale, dans leur système éducatif, dans leur voie de droit. Ils s'étaient engagés à le faire. Là, ils ne l'ont pas fait, sauf quelques très rares pays. Et le deuxième point maintenant important, c'était le silence sur Durban. La presse n'en a pas parlé. Les gouvernements qui s'étaient engagés à le faire n'en ont plus parlé. C'était le terrorisme qui était là, l'agenda. Et donc, littéralement, ce progrès considérable de lutte contre le racisme a fait l'objet de silence et d'invisibilité. C'est la marque de ce qui est arrivé aux esclaves et aux racistes. C'est-à-dire le silence sur le racisme et l'invisibilité de ses victimes. Alors, deux ou trois choses pour conclure. Nous sommes dans un contexte, c'est pour ça que je vous félicite, le MRAP, d'avoir fait cette réunion, et j'espère qu'elle aura des suites, où la question du racisme, la question que vous devez vous poser, au vu de l'actualité, ce que nous sommes en train de voir aux frontières de la Pologne et de l'Ukraine, ce que nous voyons en France avec Zemmour et les discours de l'extrême droite et les discours racistes, les incidents violents avec la police, etc., tout cela sont des réalités. Et donc, La question que vous vous posez, c'est de savoir, est-ce que le racisme augmente ou non? Et moi, je souligne ça, j'aimerais qu'on en débatte. La plupart de ceux qui travaillent sur le racisme estiment que le racisme augmente, et beaucoup aussi des victimes. Parce qu'il y a les actes qui sont visibles, les journaux en parlent, les victimes en parlent. Et donc, on pense que, que le racisme augmente. Moi, mon avis, c'est que non. Nous n'assistons pas à une montée du racisme. Nous assistons à une sortie du bois du racisme. C'est-à-dire que moi, j'étais rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines de racisme pendant 6 ans. C'est-à-dire que j'avais un mandat de l'Assemblée générale de l'ONU pour enquêter dans tous les pays où on m'avait signalé de racisme. Et j'en ai fait une 20aine, du Japon, à la Russie, aux États-Unis, au Brésil, en Côte d'Ivoire, en Suisse, etc. Et donc, sur cette base, mon avis, et je termine là-dessus, c'est très important, nous n'assistons pas à une montée du racisme, mais au fait que le racisme sort du bois, parce que la leçon principale que j'ai apprise de mon travail comme rapporteur, j'ai fait une 20aine de rapports, vous les verrez dans le site des Nations Unies des droits de l'homme, c'est que le racisme avance masqué. Dans la plupart des situations de racisme, il est masqué. Le racisme est très rarement avoué, reconnu, comme en Afrique du Sud, là. Ils l'ont dit clairement. Mais dans la plupart des autres pays, il est masqué. Et donc, quand le racisme n'est plus masqué, comme Zemmour le dit, le Front National, etc., moi je dis c'est excellent, nous sommes dans une situation de progrès, paradoxalement. Parce que nous savons qui le dit, quels mots il utilise, quel contexte il fait, et donc on peut combattre le racisme. Parce que, alors mon avis, c'est que nous sommes dans une situation de mutation très profonde, c'est-à-dire que tous les paradigmes changent. Et au cœur du racisme, c'est la leçon, l'autre leçon que j'ai apprise, pour toucher aux sources du racisme, le terrain central qu'il faut regarder, c'est comment les nations et les États ont fait leur construction identitaire, l'identité nationale. C'est dans la construction des identités des pays dans l'histoire du monde, dans le temps long de l'histoire, qu'on a hiérarchisé les communautés, qu'on a trouvé des signes et des symboles pour montrer que certains sont supérieurs et d'autres sont inférieurs. L'identité nationale est la source par laquelle, historiquement, dans la plupart des pays, dans notre construction, on a inventé le racisme. Et cette identité nationale a été transmise par l'éducation, par l'écriture et l'enseignement de l'histoire, et appliquée socialement, ce qui fait que dans les pays, on assiste à deux cartes. La carte de la marginalisation sociale, économique et politique coïncide avec la carte ethnique. Ceux qui sont marginalisés économiquement, socialement, culturellement, invisibles, regardez vos télévisions tous les soirs. Regardez. Une partie immense de la France plurielle n'est pas là. Donc, en conclusion, nous ne sommes pas dans une phase de montée du racisme, mais de sortie du bois du racisme. Parce que c'est très important que ceux qui le combattent aient l'espoir qu'ils sont en train de faire des progrès. Et je pense qu'il y a des progrès. Il y a des progrès sur le plan juridique. La France, comme le Sénégal, mon pays, à cause du combat des victimes, des associations des droits de l'homme, de vos associations, ont réussi à faire adopter des législations nationales extrêmement précises pour combattre le racisme. Nous, sur le plan international, comme le disait Mme Chloé Morel, nous avons adopté des conventions internationales. Donc, sur le plan du droit et de la justice, progrès. Les textes existent. Parce que le combat contre le racisme commence d'abord par les textes. Le droit, la loi, la justice. Le deuxième signe de progrès extrêmement important, c'est que nous avons donc identifié, surtout après septembre 2001 et le combat contre le terrorisme et les violences que ça a entraîné, et la torture assumée et les violences, qu'il fallait aller en profondeur. Et donc, ma deuxième suggestion que je vous donne comme conseil, gardez à l'esprit l'universalité du racisme. Monsieur Amselem va en parler. La dernière manifestation violente de racisme, le génocide, a eu lieu en Afrique, au Rwanda, en 1994. C'est le génocide le plus dense de l'histoire de l'humanité, parce qu'en 3 mois, 1 million de personnes ont été tuées. On a tué de maison en maison, de quartier à quartier. On a obligé les mères à tuer leurs enfants. On a mis des enfants dans des églises qu'on a brûlées, les prêtres, on les a laissé les tuer. 1 million de personnes, 3 mois. C'est le génocide le plus grand. Ça a lieu en Afrique. Et ensuite, Srebrenica, là, en Europe, en Yougoslavie. 800 000 personnes, 80 000 personnes tuées, musulmans, massacrés en 2 jours. Donc, l'actualité est la violence du racisme. Alors, donc, cette manifestation, elle est là. Le ventre est encore fécond. Alors, dernier point en conclusion. Là où votre mobilisation et celle du MRAP est tellement fondamentale, c'est que nous sommes dans un contexte où l'antiracisme est culpabilisé. Et il y a des intellectuels, notamment français, qui ont déclaré que l'antiracisme est la dernière forme du totalitarisme. C'est Pascal Bruckner. Allez dans les journaux, regardez La Libérée. Il a déclaré, au moment où j'étais rapporteur spécial, l'antiracisme est la forme la plus récente du totalitarisme. Donc, ceux qui combattaient contre le racisme, vous, le MRAP, moi, rapporteur spécial et d'autres, on était accusés, la sœur et tout le monde. C'est-à-dire le combat antiraciste, au moment où il était en train de se manifester avec cette violence, il y a des intellectuels appuyés par des journaux, des livres, qui ont dit non, l'antiracisme est du totalitarisme. Et nous voyons l'expression actuellement ici. Alors, conclusion. Là où nous sommes dans un grand progrès, c'est que, gardez ça à l'esprit, le racisme ne monte pas, il mute. Ceux qui le manifestaient ont été obligés par les victimes, par les ONG, comme le MRAC, comme d'autres, à sortir du bois. Et par les dynamiques multiculturelles des sociétés plurielles, ils ont été obligés de se lâcher. Et donc, nous sommes dans un progrès, ils ne sont plus masqués. Quand quelqu'un comme Alain Finkielkraut, qui est à l'Académie française maintenant, au lendemain de la victoire de la France à la Coupe du Monde, on lui dit, mais en France, il y a un progrès immense. La société française est black, blanc, beurre. Vous vous rappelez? Il a dit non, la société française, elle est black, black, black. Et toute l'Europe sourit de nous, il a déclaré. Donc, quand des intellectuels à ce niveau se lâchent, ça veut dire que littéralement, ils ne peuvent plus masquer. Et c'est bon, c'est bon. Parce qu'on sait qui le dit, comment il le dit, dans quel contexte. Et donc, sachez que vous êtes dans ce contexte-là où les forces qui veulent occulter le combat contre le racisme sont extrêmement fortes et puissantes, à la fois dans les médias et sur le plan politique également. Et regardez les programmes de tous les candidats de gauche. Je parle de la gauche, je ne parle pas de la droite, parce que dans la droite, on a vu aux primaires comment littéralement le discours contre l'immigration, l'étranger, etc., a pris une coloration raciale. Mais regardez les programmes des candidats de gauche. Il y en a très peu qui osent mettre dans leur programme des expressions fortes en faire du combat contre le racisme une priorité. Non, pour aucun d'entre eux. Donc, le front politique est là. Mais le front intellectuel, c'est le plus fécond, parce que le racisme, sachez-le, c'est d'abord la légitimation de la hiérarchie des races par des intellectuels, des scientifiques, des anthropologues, qui littéralement, dans une société, disent que telle communauté, telle race est supérieure et le démontrent socialement, culturellement et scientifiquement, par des scientifiques, donc intellectuels. Et ensuite, c'est instrumentalisé par des politiques et ensuite, socialement, mis en action par les politiques pour structurer les sociétés. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que les victimes se mobilisent, utilisent la loi, la justice. Les victimes et ceux qui les appuient, comme vous, travaillent sur le plan intellectuel, questionnent les concepts et les idées, c'est-à-dire ce qui est à la base, et littéralement s'engouffrent dans tous les aspects de la société pour le transformer. Donc, vous êtes dans une phase, non pas de progrès, de montée du racisme, mais de mutation. Engouffrez-vous dedans, avec des organisations comme les vôtres. Et littéralement, utilisez ce qui vient de se passer en Ukraine, pour montrer combien c'est complexe et difficile. On combat pour défendre les Ukrainiens, pour la justice, etc. Et en même temps, on discrimine à la frontière. C'est très parlant. Intégrer ça de manière profonde. Mais nous sommes dans une mutation. La rue française, comme la rue allemande ou italienne, sont multiculturelles, toutes les couleurs. Mais les structures de pouvoir en France et ailleurs ne sont pas multiculturelles, comme la télévision française, comme le Parlement français, comme le gouvernement français, etc. Et donc, il faut porter le fer là, casser l'invisibilité et le silence. Et donc, mettre le combat sur le racisme au niveau des valeurs humaines, au niveau des mécanismes de la justice de la loi et au niveau des institutions de l'État directement et les poser, etc. Et pour le faire, je vous allez sur le site du Haut Commissariat aux droits de l'homme ou du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Mettez conférence de Durban, vous aurez le document. Prenez-le, lisez-le, distribuez-le, tout est dedans. Adopté à l'unanimité. Voilà. Je vous remercie.
Merci pour cet exposé enthousiaste et passionnant qui introduit un grand nombre de notions qui chacune mériterait un colloque.